Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le jeudi 26 juin 2025 et si l'on en croit les statistiques, les mouvements des indices américains étaient les plus petits depuis janvier 2017 hier. Pour faire simple, ça fait 8 ans qu'on s'était pas emmerdé pareillement. Pourtant, je me rappelle plusieurs séances ces dernières années où je me suis demandé ce que je foutais là plus d'une fois par jour. Mais bon, si c'est les statistiques qu'ils disent... Enfin, une chose est certaine, les intervenants se demandent sur quel pied danser, et ce, même à 1% des records. On veut croire au cessez-le-feu, mais en même temps, il y a comme un doute, et on espère que Powell va baisser les taux, mais quand on l'écoute, on se dit que c'est pas gagné. Bref, la journée a été longue. On ne va pas se mentir, les marchés vont bien et ils sont raisonnablement optimistes. Ils sont raisonnablement optimistes parce qu'ils se concentrent sur les bonnes nouvelles. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'aime pas trop regarder ce qui ne va pas. On sait qu'il y a des trucs qui ne vont pas, mais on se dit que si on n'y pense pas et si on n'en parle pas, si on ignore, ça devrait bien se passer. Mais le problème dans les séances comme celle d'hier, c'est qu'il y a tellement rien à dire de neuf que nous sommes obligés de nous concentrer sur des vieux trucs pour ne pas prendre le temps de regarder ce qui ne va pas. Donc le sujet principal d'hier, c'était est-ce que le cessez-le-feu peut tenir ? Le problème avec le cessez-le-feu, c'est qu'ils arrivent toujours à un moment où les deux parties sont quand même bien chaud patate et qu'elles ont vraiment envie d'en découdre, même si ça doit se finir à coup de fourchette parce qu'on n'a plus de munitions. Et quand t'as un mec qui vit à 10 000 bornes de chez toi dans une grande baraque toute blanche qui t'envoie un mail pour te dire d'arrêter tes conneries ou il te refait la déco de la maison... Et tu reposes la fourchette que tu avais dans la main à sa place dans le tiroir et tu fais semblant d'avoir envie de trouver une solution pacifique. Pourtant, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père et son père à lui t'ont toujours dit que les gars d'en face, c'était ton pire ennemi et que ta priorité dans la vie, c'était d'en faire du steak tartare. C'est pas facile de rester calme et de retourner au bureau le lendemain dans ces conditions. Et ça, je crois que le monde merveilleux de la finance et de l'investissement où tu gagnes à tous les coups a très bien compris le concept. Tout d'abord, tout le monde est conscient que le moindre mégot jeté par terre à Téhéran ou le moindre regard de travers à Tel Aviv a le pouvoir de relancer la musique et ce... Même si le type de la grande maison toute blanche hurle au micro de CNBC pour ordonner d'arrêter. Les deux parties sont encore capables de se laisser laisser les fourchettes dans le tiroir pour l'instant et de finir la guerre des 12 jours avec le service athée. La seule chose que l'on se souviendra, c'est que terminer un génocide à la cuillère à café, ça sera super long. Mais passons. À l'heure actuelle, nous sommes bien installés dans nos fauteuils à observer ce qui se passe sur nos écrans, et chaque minute qui passe est une minute gagnée en faveur de la paix. Pourvu que ça dure. Mais en revanche, qu'est-ce que c'est chiant. Donc mercredi, le S&P 500 a bougé d'un demi-cheveu. L'indice est resté collé à 1% de son plus haut historique, avec un mouvement quotidien aussi palpitant qu'un dimanche pluvieux, le plus petit donc depuis janvier 2017. Autant dire qu'il y avait une ambiance fabuleuse, qui rappelle un peu un apéro au kombucha dans un club de vegan. Le Nasdaq, lui, s'offrait un petit 0,3% grâce aux usual suspects de l'IA, Nvidia, et Supermicrocomputer, par exemple, et compagnie qui tiennent à bout de bras le marché, qui donne quand même parfois l'impression d'avoir le souffle court. Hein. Même si Nvidia termine au plus haut de tous les temps et que sa market cap est quasiment indécente, à 3760 milliards contre 3660 pour ses petits joueurs, de chez Microsoft, on notera quand même que depuis le point bas du mois d'avril, Nvidia a repris 1420 milliards de market cap, rien que ça. Pourtant, on a quand même l'impression que le marché a le souffle court et qu'en plus, il se traîne un sac à dos de 200 litres de chez Decathlon qui est rempli de cailloux. Le meilleur exemple de cette molle attitude, c'est peut-être la publication des chiffres de Micron. Hier soir, après la clôture, le géant des semi-conducteurs a publié ses chiffres trimestriels. Et puis alors ce matin, en lisant la presse, les headlines étaient dithyrambiques, extatiques et panégyriques. Oui, alors moi aussi, je savais pas que le mot panégyrique existait, et pendant un bref instant, j'ai cru qu'il avait été inventé pour gagner au Scrabble. Mais c'est fou ce qu'on trouve dans un dictionnaire des synonymes. Panégyrique existe, et ça veut dire dithyrambique avec un poil de flagornerie. En gros, ça laissait supposer que Micron avait fait un carton, et qu'il surfait sur la vague de l'IA tout en pulvérisant les attentes. Et effectivement, les chiffres étaient tous... au-dessus des attentes. Chiffre d'affaires 9,3 milliards, plus 37% sur un an, un record. Bénéfice par action 1,91$ contre 1,60$ attendu. Marge brute ajustée 39% avec une prévision à 42% pour le trimestre prochain. Et ce carton est dû aux puces de Micron qui sont essentielles pour l'IA. Et ces mêmes puces ont vu leur vente exploser de 50%. Le segment data center a doublé. Et pour faire simple, ça crame du GPU et ça stocke de la donnée comme jamais. Le CEO est tellement méga confiant qu'on dirait Brad Pitt sur le tapis rouge et les guidance sont phénoménales. La tagline de la conclusion pourrait être « Mike Rohn s'impose comme un pilier stratégique de l'infrastructure IA ». Ce n'est pas juste un suiveur du boom IA, mais un moteur à part entière. Donc, compte tenu de tout ça, je me suis dit « Damned, le type doit prendre au moins 15% after close ». Je me précipite donc sur mon clavier, je tape le code de Mike Rohn et j'apprends que le titre est en hausse de 1,6%. Tout ça pour vous dire que ce marché ne veut pas baisser, c'est une certitude. Par contre, là, tout de suite, il va lui falloir un peu plus qu'un milkshake Lexomil Xanax pour avoir envie d'aller à 7000 sur le S&P 500 dans cet environnement. Ailleurs dans le monde, l'Europe a consolidé. Alors, consolidé, c'est pour pas dire baisser. La France reculait de 0,76%, l'Allemagne de 0,61%, et la Suisse continue de déprimer et perdait près d'1%. Nestlé pesait sur l'indice après avoir reçu une nouvelle amende. Nestlé Water Suisse a été condamné à verser 500 000 francs pour avoir utilisé des filtres à charbon non autorisés à Igné entre 2008 et 2022, tout en continuant à vendre son produit sous l'appellation trompeuse « eau minérale naturelle ». Le ministère public vaudois estime donc que cette pratique a induit les consommateurs en erreur et procuré un avantage économique illégal. L'amende tient compte de l'absence de danger pour la santé et de la collaboration totale de Nestlé. En parallèle, des scandales similaires éclaboussent la marque en France, notamment sur Vittel et Perrier, on connaît l'histoire, mais pour un groupe qui réalise plus de 93 milliards de francs de chiffre d'affaires. Et cette sanction, c'est un peu comme si on t'interdisait un sucre dans ton café. Ça change rien à ta journée. Mais on a quand même réussi à faire baisser le titre de 2,7%. Et puis en France, on avait aussi son petit scandale perso, puisque Worldline a pris une méga claque. L'action s'est vautrée de 38% après des révélations explosives sur des paiements douteux opérés pour des arnaqueurs, casinos illégaux et sites pornographiques pendant une décennie. L'enquête menée par Mediapart, Le Soir et d'autres médias dévoilent un passé pas très compliance. Le boss Pierre-Antoine Vacheron tente de calmer la tempête en criant au lynchage médiatique et en promettant une tolérance zéro désormais. Problème, 130 millions d'euros de chiffre d'affaires viennent justement de ses clients à haut risque. Et avec un titre qui a perdu 95% en 4 ans, les marchés ont déjà tranché. La confiance ne se recharge pas par carte bancaire. Et puis, pendant que nous passions notre journée à pagayer dans les sources de Nestlé et à faire nos paiements via Worldline, tout en nous demandant combien de temps les bonnes intentions allaient tenir au Moyen-Orient, Powell est revenu parler devant les politiciens américains, mais cette fois devant le Sénat. Et si c'était un film, on aurait pu appeler ça « Powell attend pour baisser les taux » ou « L'homme qui ne voulait pas se faire avoir deux fois ». Imaginez un pilote d'avion. Aux commandes, vous avez Jérôme Powell. Dans le cockpit, il y a des voyants rouges qui clignotent dans tous les sens et des alarmes qui vous disent que vous perdez de la vitesse. Et pendant ce temps-là, vous avez Trump qui donne des grands coups de poing dans la porte en lui hurlant d'accélérer, d'aller plus vite, avant qu'il soit trop tard. Et puis derrière, dans la cabine, les passagers, les marchés, réclament du champagne, du calme et une température ambiante à 2% d'inflation. Bref, un vol très compliqué. Cette semaine, le patron de la Fed est allé s'expliquer devant le Congrès et le Sénat américain. Et s'il y a bien une chose qu'il a martelé, c'est « Je ne couperai pas les taux sous la pression politique, pas maintenant, pas comme ça ». En effet, Powell a une hantise, faire une erreur de jugement, une erreur qui pourrait coûter cher, très cher, selon ses propres mots, si on se plante. Ce sont les gens qui paieront la facture, et pour longtemps. Alors il attend, il observe, il temporise, il regarde, il guette, il jauge, il ausculte le moindre signe, il retient son souffle et il attend le moment juste. En résumé, avant de couper les taux, il veut voir jusqu'où la fièvre monte, la fièvre des tarifs bien sûr, il attend les chiffres de l'inflation de juin, puis ceux de juillet, pas avant. S'il voit un plus 0,2% ou plus dans le CPI, il ne fera rien. S'il voit encore un plus 0,1 comme on met, alors là, peut-être qu'il appuiera sur le bouton. Mais attention, pas de promesses, pas de calendrier. Powell refuse de se lier à une date quelconque. Et hier encore, il a répété les mêmes choses. Il craint pour l'emploi, pour l'inflation, les droits de douane l'inquiètent et le fait de rien savoir au sujet des droits de douane, justement, n'arrange rien. Donc, si on doit faire le résumé de ces deux jours, pas de cut en juillet, sauf miracle statistique. Le CPI de juin sera le juge de paix ou pas. Et le marché de l'emploi est sous surveillance rapprochée. Powell veut éviter une erreur qui pourrait lui coller à la peau comme celle de 2021 sur l'histoire de l'inflation qui était transitoire. Rien de neuf sous le soleil et rien qui n'a pu fournir la moindre dynamique à la séance d'hier qui va rester longtemps au top des séances chiante. Les marchés asiatiques ont reculé ce matin. Les investisseurs restent prudents face à la trêve entre l'Israël et l'Iran. et à l'approche de la date limite du 9 juillet pour les nouveaux tarifs douaniers américains. Le Kospi a chuté 2,2% après un fort rallye ce mois, tandis que les indices chinois et hongkongais perdaient légèrement du terrain. Le Japon a fait exception, le Nikkei a grimpé de 1% porté par la tech et l'effet Nvidia. La Fed reste donc prudente sur les taux, attendant de voir les effets réels des tarifs sur l'inflation, ce qui pèse sur les actifs à risque. Le Japon a également affirmé qu'il poursuivrait les négociations avec les États-Unis pour éviter les nouveaux droits de douane, ou comment répéter les mêmes choses encore et encore, donnant l'impression que c'est de la nouvelle neuve. Du côté des matières premières, on notera que le pétrole remonte un peu, mais les experts précisent bien que c'est pas à cause du Moyen-Orient, mais plutôt à cause des taux qui vont baisser un jour, des inventaires et du short covering sur les contrats futurs. En gros, pour justifier les mouvements du pétrole, tu as le droit de raconter n'importe quoi, tout est valable. Le WTI est à 65,14, l'or est à 3350, le Bitcoin frôle les 108 000 $ et le rendement du 10 ans est à 4,287%. Circle, l'ex-star des IPO crypto s'écrase violemment depuis deux jours, 25% de baisse après avoir fait du x10 en trois semaines. Pendant ce temps, Coinbase cartonne avec 15,5% de hausse portée par les revenus sur l'USDC de 68 millions de dollars au T1. Circle trop cher, oui, selon les pros. Irrationnel, dit l'un. Surévalué, dit l'autre. Le duo reste lié. Circle verse la moitié de son chiffre d'affaires à Coinbase grâce au stablecoin. Et si la régulation US passe, surtout sous Trump, Coinbase pourrait rafler encore plus. Et puis on notera que BP s'envole en bourse après des rumeurs de rachat par Shell, même si ce dernier nie officiellement. L'idée emballe les marchés. BP affaibli mais bien doté serait une proie idéale. Et Shell, recentré sur le gaz, apparaît comme le chasseur stratégique parfait. Une fusion créerait un mastodonte dans le golfe du Mexique, mais l'opération reste floue et pourrait déclencher les alarmes des antitrusts. On notera aussi que pendant que Powell témoignait devant le Sénat, Trump affûtait déjà son choix pour remplacer Jérôme Powell à la tête de la Fed. Alors que le mandat de ce dernier expire en mai 2026, il a réduit la liste à 3-4 noms, dont Kevin Warsh, proche du président et artisan du sursis accordé à Powell ce printemps. Figure aussi Christophe Waller, partisan assumé de baisse de taux dès juillet, et Scott Bessent, son secrétaire du Trésor. Kevin Assett, stratège économique de la Maison-Blanche, complète le casting. Trump pourrait annoncer son poulain bien plus tôt que prévu, histoire de montrer qui commande la planche à billets. Et puis surtout, il fallait absolument qu'il dise quelque chose pendant que Powell s'exprimait. Si la guerre des 12 jours est terminée, la guerre des égos ne l'est pas encore. Du côté des chiffres du jour, il y aura les durable goods, le core PCE prices du Q1, à ne pas confondre avec le PCE de demain, qui lui est mensuel. L'important, c'est celui de demain. En plus de ça, il y aura aussi le GDP américain et les jobless claims. Nous aurons aussi droit à une avalanche de membres de la Fed qui parleront, ainsi que Madame Lagarde. Alors voilà, on a eu du Powell qui temporise, du Trump qui marque son territoire, du Nestlé qui bricole ses filtres, du Micron qui cartonne pour que dalle, et du marché qui bouge autant qu'un panda sous l'exomil. Bref, tout le monde retient son souffle en attendant les chiffres de demain. En attendant, passez une excellente journée, et on se voit donc demain pour boucler cette fabuleuse semaine.